J'ai proposé d'évoquer aujourd'hui le noble silence et la solitude idéale. Je ne sais pas si vous avez lu le petit texte qui est figuré sur l'annonce de ce thème. Non ? Il y avait quelques lignes, simplement, où je disais que il y a une compréhension ordinaire du noble silence et de la solitude idéale qui me paraissait du moins erronée, comme souvent, et que je me proposais de voir avec vous un petit peu de quoi il s'agissait. Si je vous dis noble silence, vous pensez à quoi, vous ? Si je vous dis pratiquer le noble silence, passer une retraite en noble silence, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Parler de la vie.
Pardon ?
La juste parole.
La juste parole.
Indispensable.
Indispensable.
Le silence du Bouddha.
Le silence.
Le silence que... celui du Bouddha.
C'est-à-dire. Parce que le silence du Bouddha, on l'emploie dans une expression un peu précise.
Donc, l'image qu'il donne quand il est resté longtemps assis, isolé, sans communiquer pendant des années. Enfin, en communiquant le moins possible. C'est une communication amoindrie.
D'accord. L'idée d'une restriction, d'une retenue, en tout cas. Au moins d'une retenue. De façon générale, c'est un peu cette idée-là que vous avez de l'histoire de retenue. J'ai regardé un petit peu sur Internet, comme ça, pour voir Noble Silence, quand on tapait ça sur Google, qu'est-ce que ça donnait. Ça donnait retraite en silence. Ouais. Tout le temps silencieux. Hein. C'est ce qu'on voit tout le temps. C'est pas ça qu'il faut comprendre, hein, bien évidemment. Il y a plusieurs récurrences de l'expression dans différents textes du canon. Donc toujours, ce que je recommande, hein, c'est que dès qu'on se retrouve confronté comme ça à une formulation ou un terme, c'est d'essayer de trouver des différents textes dans lesquels il est employé. Et vous pouvez être à peu près sûr que lorsque vous avez une petite anthologie, le terme, vous verrez, est employé de façon extrêmement différente, a priori, d'un texte à l'autre. Et donc, il y a un petit travail d'analyse à faire pour voir, finalement, qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous ces emplois pour arriver à cerner au plus près le sens de l'expression. Et puis, il y a l'autre point aussi qui peut être très intéressant, c'est de regarder l'étymologie du terme en pali. Quel est le terme pali qui est employé ? Et qu'est-ce qu'il signifie, lui, déjà, au départ, puisque noble silence, dans les deux cas, c'est deux termes français. Et alors déjà, la première chose qu'on peut dire quand on emploie l'expression noble silence, c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire régulièrement à propos des quatre nobles vérités, c'est que c'est pas le bon ordre dans les mots. Hein? Noble n'est pas forcément un adjectif qui qualifie le mot suivant. Donc c'est pas forcément du silence qui est noble. C'est plutôt à comprendre comme les quatre vérités des nobles, telles que, en fait, même la réalité telle que la voix les nobles. C'est comme ça qu'il faut comprendre Arya Satcha. Et donc là, en ce qui concerne le noble silence, c'est pareil. C'est le silence tel que le conçoivent les nobles, tel que le pratiquent les nobles. Noble étant ici pris pour ceux qui sont... ou Bouddha, ou au moins qui ont l'expérience de la réalité telle qu'elle est. C'est ceux qui sont entrés dans le courant. Donc déjà, c'est pas un silence qui a de la noblesse, hein. C'est un silence qui correspond à l'attitude des Bouddhas, et de ceux qui sont sur le chemin, sur l'entrée, qui sont entrés dans le courant, etc. Donc ça, c'est la première chose à prendre en considération. Maintenant, quel est le terme aussi qui est employé pour désigner silence. Alors, je n'ai pas vérifié quelle était l'étymologie latine de silentium, je ne sais plus ce que c'est, mais le terme pali, lui, je vais vous le noter pour ceux qui veulent
l'écrire, tunibhava.
Tunibhava, c'est assez inattendu comme terme pour moi, je ne pensais pas du tout trouver ça, et ça vient d'un verbe tusati, T-U-2-S-A-T-I, donc là il n'y a pas de signe diacritique, ce n'est pas la peine que je l'écrive, T-U-2-S-A-T-I, Donc tuni bhava, tuni en fait c'est un adverbe, une forme verbale utilisée comme, comme adverbe. Et bhava, bah, vous connaissez peut-être ceux qui ont déjà une certaine habitude, hein, c'est le verbe bhava, c'est le verbe devenir, se développer, être de façon générale, mais c'est plutôt ce qu'on emploie dans bhavana par exemple, le développement des qualités de l'esprit, donc c'est devenir tuni. Alors qu'est-ce que veut dire tuni? Que veut dire le verbe tusati? Eh bien, il veut dire être content, être satisfait, être dans la quiétude. Donc, pas dans le silence. Au sens où on prendrait le mot silence comme absence de parole. C'est pas du tout ça strictement que veut dire le mot. C'est que le silence, en fait, est l'expression d'une non-inquiétude, d'un apaisement, d'un contentement, du fait d'être dans la plénitude. Hein. Donc c'est pas un terme négatif, c'est un terme qui est au contraire positif. Ça peut être une première chose déjà intéressante à noter. Et ça fait immédiatement écho pour moi à un certain nombre de textes dans lesquels tout ce qui relève de la parole est lié à ce qui relève de la querelle. Vous avez de nombreux textes qui disent que les paroles sont ce qui provoque les conflits, ce qui provoque les querelles, ce qui provoque la prise des bâtons et la prise des armes, selon les expressions qu'on trouve dans les textes anciens. Donc l'insatisfaction, donc la souffrance. Parce que les paroles sont toujours, la plupart du temps, lié aux opinions auxquelles on est attaché, qu'on veut imposer aux autres, pour lesquelles on va vouloir disputer, discuter, ferrailler, etc. etc. Donc, il y a une vision très négative de la parole, de façon générale, dans les textes bouddhiques, parce que, la plupart du temps, cette parole est une parole égotique, liée à la volonté d'affirmer son opinion, ses idées, et de les défendre, etc. Et d'une certaine manière aussi penser à cette épithète du Bouddha qui est le Muni, Shakyamuni, le silencieux des Shakyas, le muet. Hein, Muni, c'est le même mot que le mot muet. En fait, dans toute la tradition indienne, ce terme de Muni désigne le sage en ce qu'il sait que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Dans le sens où à partir du moment où l'on connaît les choses, où l'on connaît la façon dont l'homme réagit, on a intérêt à en dire le moins possible. On doit garder sa parole, on ne doit parler qu'à bon escient. Et le fait de parler beaucoup montre une inquiétude, le fait de parler peu montre au contraire un apaisement, une quiétude. Donc le silence des nobles, si je veux reprendre l'expression dans le bon sens, donc « ariyatuni bhava », c'est plutôt pas un exercice, pas un entraînement, mais plutôt l'expression, la manifestation de cette quiétude que les nobles vont exprimer par une absence de prise de parole. C'est effectivement généralement associé à la parole juste, hein, que vous avez évoquée tout à l'heure, donc « samma vacha », la parole juste. Là, j'ai un texte, ça vient des Udanas, à l'occasion où le Bouddha entend un groupe de moines qui sont en train de discuter des mérites respectifs des deux principaux rois contemporains du Bouddha, le roi Bimbisara du Magadha et le roi Pasenadite du Kosala. Et ils sont en train de disputer bah, lequel est le meilleur, lequel est le plus riche, lequel est le plus puissant, lequel est le plus brave, lequel est le meilleur disciple du Bouddha, etc. etc. Et le Bouddha les interrompt en leur disant « Il n'est pas approprié, bhikkhu, de parler de tel sujet. Lorsque vous êtes réunis, vous n'avez que deux devoirs, parler du dharma ou garder le silence des nobles. » Donc le silence des nobles, c'est le silence quand on n'a pas à parler de choses utiles qui relève du dharma. Et c'est vrai que généralement, quand on emploie l'expression de silence noble, on l'emploie en incluant parler du dharma. Ce n'est pas donc faire silence, ce n'est pas se taire de façon générale, c'est ne parler que comme le fait le Bouddha, de ce qui est utile par rapport au chemin, par rapport à la voie qui mène à l'éveil. Et donc ça peut être décliné après de différentes manières. Généralement, la façon la plus simple de décliner la parole juste, c'est par rapport aux préceptes, aux cinq sikkhapadas. Donc c'est ne pas user de paroles. Allez, c'est à vous qui allez me le dire. Les quatre formes de paroles dont on s'abstient. Mensongère. Avant mensongère, il y en a une autre.
Violente.
Blessante. Blessante, mensongère, frivole et inutile. Inutile. Donc ça veut dire qu'on ne doit parler que pour dire la réalité. D'abord, pour ne pas blesser et créer l'harmonie, de façon positive, pour ne pas blesser, mais au contraire pour guérir, pour soulager, en rapport avec la réalité, de façon à ce que ce soit utile, puisque ça, inutile ou frivole, bon, il y a un degré supplémentaire dans frivole, c'est généralement, qu'est-ce qu'on entend par frivole, ben, c'est les bons mots, hein, l'humour, ce genre de choses. Et il y a une autre liste plus positive qui est une liste de 10 sujets corrects de conversation. Donc ça, vous trouvez ça dans l'Anguttara Nikaya. Là aussi, pareil, c'est dans une occasion où les bhikkhus ont une discussion que le Bouddha ne juge pas correcte. Donc il lui dit, en fait, il n'y a que 10 bons sujets de conversation. Donc il faut discuter de la modestie, il faut discuter du contentement, il faut discuter de la solitude, donc nous on en discutera tout à l'heure, il faut discuter du dégagement des liens, de ce qui suscite la persévérance, la vertu, la concentration, le discernement, la libération et connaissance et vision de la libération. Tels sont les 10 sujets de conversation, et si vous deviez vous engager à plusieurs reprises dans ces 10 sujets de conversation, vous éclipseriez jusqu'au soleil et la lune, pourtant si puissants, et encore, je ne dis rien, des ascètes errants des autres sectes. Petite phrase pourtant humoristique là, de la part du Bouddha, qui n'hésite pas à critiquer les autres, contrairement à ce qu'on croit généralement, quand c'est pas les engueuler directement avec une certaine verdeur. Donc je vais revenir peut-être un peu plus en détail tout à l'heure sur ces 10 sujets de conversation donc qui constituent la bonne parole portant sur le dharma, hein, pas le noble silence en tant que tel, mais vraiment les deux sont liés. Et je voulais aussi vous citer 4 stances tirées des Theragata, les stances des anciens, les stances des Arhants, hein, les chants d'éveil, les disciples directs du Bouddha. Il y en a un qui évoque justement ces paroles, et voilà une traduction possible de ces stances. Il faudrait dire uniquement des paroles qui ne tourmentent ni soi-même ni autrui. De telles paroles sont vraiment bien dites. Il faudrait dire uniquement des paroles agréables, des paroles qui puissent être acceptées par les autres. Celui qui parle sans faire de mal aux autres est agréable. La vérité est vraiment une parole impérissable. C'est une vérité antique. En vérité, le mot juste, le but et l'enseignement sont fondés. Les paroles sûres énoncées par l'éveillé en vue de la réalisation du Nibbana pour réaliser la fin de la souffrance sont vraiment les meilleures de toutes les paroles. Donc, des paroles qui évoquent le Nibbana et la fin de la souffrance, des paroles justes qui parlent du but et de l'enseignement, hein, des paroles qui ne font pas mal, qui ne tourmentent ni soi-même ni autrui, et même des paroles qui sont agréables. Voilà, ça c'est vraiment toutes les définitions qu'on évoquera de façon positive. Et puis dans un article que Tanisaro Bhikkhu, celui qui gère le site Access to Insight, que vous connaissez peut-être, on trouve de nombreuses traductions en anglais du canon Pali, évoque une expression de son propre maître qui disait: si vous ne savez pas contrôler votre bouche, n'espérez jamais pouvoir contrôler votre esprit. Donc là, ça me permet de faire le lien entre la parole extérieure, hein, ce qui est prononcé, et l'attitude d'esprit. qui était donnée en fait à l'origine par le terme employé. Ce qui importe en fait dans cette expression de la parole, c'est qu'elle manifeste un état d'esprit. C'est pas le fait de parler en tant que tel qui est négatif. C'est le fait de parler parce que ça va manifester quelque chose, un état qu'on considère du point de vue bouddhique comme négatif. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense tout de suite à deux choses. Un texte bouddhique et un documentaire sur des bouddhistes occidentaux. Le documentaire d'abord, c'est un documentaire qui avait été fait sur deux Français qui ont été pris les préceptes du Bhikkhu en Birmanie. Pour ceux qui les connaissent, c'était Sasana Terrain et Dhammasami. Il avait été fait un documentaire sur eux, et dans ce documentaire, on les voyait rencontrer un bhikkhu d'origine américaine, qui, depuis plusieurs années, ne prononçait pas un seul mot. Mais dès qu'il rencontrait quelqu'un, sortait un papier et écrivait. Donc il avait fait du précepte du noble silence le fait de ne pas prononcer un mot. Mais en l'occurrence, quand on regardait dans le documentaire ce qu'il écrivait sur son bout de papier, je peux vous dire que ça n'avait rien à voir avec le Arihat Nibbana. Hein. C'était ce qu'il exprimait, un certain nombre de désirs très présents, le fait notamment de désirer des livres, par exemple, ce genre de choses. Donc, il n'était absolument pas dans l'expression d'un apaisement, et c'était dans simple absence de parole. C'était complètement absurde. Et c'était... Ce moment de documentaire me fait toujours penser, alors j'ai pas retrouvé les références du texte, ça doit être dans un livre de Mohan Vijayaratna que j'ai trouvé ça, un sutta dans lequel le Bouddha engueule, pour dire les choses simplement, un certain nombre de moines qui ont passé une retraite de saison des pluies pas dans le même lieu que lui, et donc à la fin de la saison de retraite de saison des pluies, ils viennent trouver le Bouddha leur demande comment s'est passée la retraite, et eux, tout fiers, disent « Ah bah on a pris le vœu au départ de ne pas prononcer un mot pendant les 3 mois, et on est drôlement contents parce que pendant 3 mois, on n'a pas dit un seul mot. » Et ils se font engueuler par les Bouddhas, directement, qui leur dit, mais vous avez fait ce que font les bêtes. Vous êtes conduits comme des animaux. Vous n'êtes pas des êtres sans langage, et vous n'avez pas à rester sans parler. C'est une absurdité. En France, vous avez perdu l'occasion pendant ces 3 mois d'échanger sur votre expérience, d'échanger sur l'enseignement, et finalement, vous avez accumulé des heures de silence totalement inutiles. Donc il faut absolument que je retrouve cette référence de texte, parce que je pense que ça en intéressera certains. Et moi, j'aimerais bien pouvoir le diffuser plus largement. Mais je trouve ça très effectivement intéressant. Ça, c'est tout à fait le même type d'attitude que ce moine d'origine américaine, ce bhikkhu d'origine américaine, qui considérait que le silence devait être une contrainte vis-à-vis de sa parole, mais qui, du coup, n'avait pas d'influence, finalement, sur son état d'esprit. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas de mauvaises pensées. Ce qui est intéressant dans la parole, c'est justement qu'elle exprime sa pensée et qu'elle devient le révélateur de sa pensée. Et quand la parole est critiquée dans les textes bouddhiques, c'est qu'en tant qu'elle révèle justement un état inquiet de gens qui sont attachés à leurs opinions et qui sont prêts à en découdre pour défendre leurs opinions. Et donc là, elle est un révélateur de l'état d'esprit. Et le noble silence, comme il est compris, quand on parle du dharma ou on garde le noble silence, c'est-à-dire que on ne doit parler que pour exprimer l'état d'esprit de celui qui travaille à acquérir et à développer cette quiétude, et ne pas exprimer de choses qui risquent de blesser, qui risquent d'être mensongères, qui risquent, etc. Et donc, pourquoi ne pas parler? Parce qu'on est attentif à ce qu'on va dire. Parce qu'on est pas dans la rétention de la parole en tant que telle, mais parce qu'on ne parle pas, parce qu'on a bien observé les conséquences de sa parole. Et là, il faut repenser immédiatement à l'enseignement de Bouddha à son fils, Rahula, sur le mensonge. Quand il dit qu'à Rahula, il faut, avant de parler, pendant que tu parles et après que tu as parlé, considérer les conséquences de ce que tu dis sur toi et sur autrui. Et que si tu as la moindre crainte que ce que tu as dit ou ce que tu vas dire ou ce que tu es en train de dire risque de produire quelque chose de négatif, dans ce cas-là, souviens-t'en pour ne pas renouveler cet acte négatif. Mais il ne lui interdit pas de parler. Il lui dit, si tu te rends compte, avant, pendant ou après, que ce que tu dis a de mauvaises conséquences possibles pour toi ou pour autrui, ne recommence pas. Donc prévois d'être attentif suffisamment à l'avance ou ultérieurement pour ne pas te laisser aller à cette parole. Mais il ne dit pas qu'il faut ne pas parler. Simplement, apprendre à se rendre compte que ce que l'on dit peut avoir des conséquences négatives pour soi et pour autrui. Donc, ça me fait penser aussi à un enseignement d'un jeune chat. Si on devait supprimer toutes les sensations qu'on éprouve, tout ce qu'on produit comme pensée, etc., on n'aurait plus aucun objet pour développer la sagesse. Se retenir de parler, c'est se priver d'un objet d'observation aussi. Donc, si la parole vient, ne pas forcément la brider, mais en revanche, développer l'attention pendant qu'on parle ou après, pour voir effectivement quelles sont les conséquences qu'elles entraînent. Et après, développer l'attention de façon à pouvoir éviter une parole, mais pas s'interdire de parler. C'est toujours la même chose dans la pratique bouddhique, il n'y a pas... S'il y a une abstention, il n'y a pas d'interdiction. Parce que l'abstention doit être comprise comme une prise de recul par rapport à ce qu'on allait faire réactivement, de façon à voir ce qui produit le phénomène, dans quel esprit on va agir, de façon à voir aussi les conséquences que ça va avoir, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma démarche ou pas. Et qu'est-ce que ça risque d'entraîner chez les autres? Donc, rappelez-vous toujours que la formule des préceptes qu'on récitera tout à l'heure, hein, Veramani Sikam Padam Samadhi Yami. Veramani, qui veut dire s'abstenir, qu'on traduit généralement par s'abstenir, strictement veut dire ne pas prendre plaisir. C'est-à-dire que toutes les actions qui sont prises en considération dans les préceptes, ce sont des actions que l'on accomplit généralement, habituellement, parce que cela provoque du plaisir. Et s'abstenir d'eux, c'est être attentif au fait que j'y prends du plaisir et que ce plaisir est toujours négatif pour moi et pour autrui. La violence, les chemins tordus des plaisirs sensuels, les paroles mensongères, blessantes, frivoles et inutiles, j'y prends du plaisir. C'est ça qui est important de voir. Le Veramani signale qu'en fait, il ne s'agit pas de s'interdire de faire quelque chose, mais d'être conscient que c'est quelque chose à quoi je prends plaisir, et que ce plaisir que je recherche dans cette expression de la violence, dans cette expression de la parole, dans cette expression du vol, etc., est toujours quelque chose qui va provoquer de l'insatisfaction pour moi ou pour autrui. Et que je dois donc développer l'attention à cela. Donc le noble silence, c'est pas se taire, c'est faire en sorte d'être attentif à ce qui provoque des paroles qui ne sont pas celles que tiendraient les nobles. Qui ne seraient pas considérées comme paroles de nobles. Je dirais que c'est plutôt ça. Cela dit, il y a une autre expression, un autre cadre d'emploi qui est plus étonnant, mais je vais peut-être revenir... Non, c'est après, je reviendrai sur la liste des 10 de tout à l'heure, parce que ça fait la liaison avec la suite. Il y a un autre texte qui est très étonnant pour l'emploi de cette expression de noble silence. C'est tiré d'un petit sutra du Samyutta Nikaya, qui s'appelle Kolita Sutta. Kolita, c'est le premier nom, le nom de baptême de Moggallana, celui qu'on appelle Moggallana. Un des deux grands disciples du Bouddha connus pour les pouvoirs miraculeux qu'il a obtenus grâce à la pratique des jhanas, Moggallana, dont nous avons vu, nous sommes censés avoir vu les reliques à Sanchi, il y a un mois, plus d'un mois. Voici ce sutta. Ainsi ai-je entendu. Une fois, le bienheureux se trouvait à Savatthi, dans le bois de Jetta, le parc d'Anathapindika. Là, le vénérable Mahamoggallana s'adressa au bhikkhu en disant « Bhikkhu, ami ». Et les bhikkhus répondirent « Oui, ami ». Le vénérable Mahamoggallana dit « Ami, quand j'étais dans la solitude, cette pensée, cette réflexion m'est venue. On parle du noble silence. Qu'est-ce donc que le noble silence ?»« Ami, il m'est apparu alors. Ici, on pacifie la pensée et la réflexion. Et avec l'esprit intérieurement établi et fixé sur un point, sans pensée ni réflexion, avec le ravissement et le bonheur nés du recueillement, on élève l'esprit jusqu'au second jhana. C'est cela qu'on appelle le noble silence. Ami, ayant ainsi pacifié la pensée et la réflexion, et avec l'esprit intérieurement établi et fixé sur un point, sans pensée ni réflexion, j'atteignis alors le second jhana. Mais pendant que je goûtais le ravissement et le bonheur nés du recueillement, mon attention se trouva perturbée par la perception de pensée. Alors le bienheureux s'approcha de moi, grâce à ses pouvoirs psychiques, et déclara « Ô Brahman, Moggallana, ne négligez pas le noble silence. Établissez l'esprit dans le noble silence. Recueillez l'esprit en un point et établissez-le dans le noble silence. » Ami, je pacifiais alors la pensée et la réflexion, et avec l'esprit intérieurement établi et fixé sur un point, sans pensée ni réflexion, et avec le raisonnement, le ravissement et le bonheur né du recueillement, j'élevais à nouveau l'esprit jusqu'au second jhana. Ami, je parle sans fausseté en disant que je suis son disciple et son fils en atteignant cette connaissance profonde grâce à l'aide compatissante du maître. Alors voilà un emploi qui ne correspond pas a priori à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc c'est un emploi, a priori, on pourrait dire technique, qui est lié à la pratique des jhanas, et c'est exactement la même expression. Hein. C'est l'Arya Tumni Bhava qui est employée dans ce texte-là. Alors, je ne sais pas si vous savez ou si vous vous souvenez de ce que sont les caractéristiques des jhanas. Donc je vais essayer de vous le rappeler. Là, en l'occurrence, il est parlé du premier et du deuxième jhana. Et la différence essentielle entre le premier et le deuxième jhana, c'est que dans le premier jhana, il y a pensée et réflexion. Et dans le deuxième jhana, il n'y a pas pensée et réflexion. Ces deux termes, c'est vitaka et vichara. Vitaka, vichara, je vais vous les noter ici. Qui sont traduites dans ce texte-là par pensée et réflexion. Alors après, il y a plusieurs traductions possibles. Et donc, quand on lit ce texte, le noble silence, c'est l'absence de vitaka vichara. Ce qui est traduit ici par pensée et réflexion. Donc c'est pas du tout l'absence de vocalisation de pensée. C'est l'absence de pensée intérieure et de réflexion. Alors, c'est pas la traduction technique la plus courante, pensée et réflexion. Vitaka, c'est le mouvement de l'esprit qui fixe son objet, et un peu comme l'épingle par laquelle les entomologistes fixent un insecte sur une planche. Hein. Donc ça, c'est vitaka qui fixe l'objet, et vichara, c'est le regard qui balaye pour voir toutes les caractéristiques de l'objet qui vient d'être fixé. Donc c'est le fait d'être l'esprit fixé sur un objet et ensuite de l'observer, de l'analyser, de réfléchir sur cet objet. Et donc ça, c'est un mouvement de l'esprit qu'on pourra appeler intellectuel, mental, ratiocineur, je ne sais pas toutes les expressions de ce type-là, qui est toujours présent dans la concentration qui constitue le premier jhana, mais qui est, du point de vue du bouddhisme, du point de vue des pratiquants du jhana, une forme très médiocre de l'esprit, qui doit être abandonné pour passer au second stade, au second jhana, qui est une absorption plus profonde, dans laquelle on ne trouve plus cette réflexion intellectuelle, mais dans les deux se trouve en plus ce qu'on appelle le ravissement et le bonheur. Le ravissement, c'est le terme de piti, et le bonheur, c'est sukha, l'opposé de dukkha. Piti, c'est un mode de joie dont on dit qu'elle est, on pourrait la rapprocher de l'enthousiasme, c'est une joie qui emplit, qui provoque une réaction, enfin je veux dire, qui donne l'impression de quelque chose qui est en mouvement, alors que sukha, c'est au contraire un bonheur qui relève plutôt de la sérénité. Il y en a un qui provoque du mouvement et l'autre qui est plutôt quelque chose de serein. D'ailleurs, quand on passe au troisième jhana, piti, le ravissement, est considéré comme médiocre et donc est dépassé et on n'éprouve plus que sukha, qui est beaucoup plus raffiné. Et sukha, il y a une comparaison qui est souvent faite dans les textes qui rentrent dans le détail des jhanas. On dit que c'est comme un tissu mouillé qui serait tellement fin que lorsqu'on l'appliquerait sur la peau, il n'y aurait pas un centimètre carré de peau qui ne serait pas touché par ce tissu. Donc c'est vraiment un sentiment qui vous enveloppe, sukha. Alors que piti, c'est plutôt un sentiment qui vous emmène, qui est plutôt de l'ordre de l'enthousiasme. Donc voilà. Donc c'est toutes ces appréhensions de soi. Hein, ce que je rappelle, l'idée principale de se entrer dans les jhanas, c'est de réduire les manifestations que l'on identifie au soi. On est au départ, donc on a du raisonnement, on a du ravissement, on a de la joie, etc. Après, on perd l'aspect intellectuel, on n'a plus que du ravissement et du bonheur, et puis on perd le ravissement, on n'a plus que du bonheur, et à la fin, on n'a plus de bonheur, on n'a plus que ce qu'on appelle l'équanimité. Et donc, on ne se voit, on ne se ressent plus comme un esprit pensant, un esprit qui a des émotions, comme le ravissement, un esprit qui éprouve du bonheur, mais juste comme un esprit qui est conscient. Donc c'est une sorte, on se réduit, hein, comme un réducteur de tête, on se réduit petit à petit, puisque au départ, l'identification se fait par rapport au corps, par rapport aux sentiments, par rapport aux raisonnements, aux opinions qu'on a, etc. Donc on réduit son identification à simplement le fait d'être conscient. Mais ça se passe par étapes. Et donc le noble silence, c'est le moment où l'on fait taire ce qu'il y a de plus grossier dans le psychisme, qui constitue la réflexion. Le fait de fixer son attention sur un objet et réfléchir à un objet. C'est-à-dire toute la pensée qu'on pourrait dire conceptuelle, en fait. Cette pensée conceptuelle qui est à l'origine des opinions. Donc, à l'origine des paroles dangereuses, violentes, mensongères ou autres, qui permettent, qui aboutissent généralement dans les textes bouddhiques à ce qu'on appelle la prise des bâtons et la prise des armes. Si on ne s'attache pas à une opinion, si on abandonne cette réflexion sur les choses qui va donner des idées auxquelles on va se tenir et faire sienne, on a des chances de ne pas connaître cette naissance des querelles et des conflits. Donc là, ce que je retiens, si vous voulez, de cet emploi très particulier de noble silence lié à cette pensée réfléchie, je peux dire, hein, par rapport à l'autre emploi qui est plutôt dans le relationnel et par rapport au dharma, c'est toujours cette mise en garde qu'on trouve dans les textes bouddhiques vis-à-vis de la réflexion conceptuelle, hein, qui est à l'origine des opinions. Finalement, quand on pratique l'entraînement de l'esprit, lorsqu'on vous demande d'observer les choses dans l'instant, et de ne pas bavarder sur elle, hein, de mettre fin au bavardage mental, papancha, le bavardage mental, c'est justement de ne pas créer des notions de ce que l'on observe dans la méditation. Hein. Il faut voir les choses comme elles sont. Il ne faut pas bavarder dessus. Hein. Donc le noble silence, finalement, c'est arrêter cette pensée discursive, cette pensée réflexive, qui nous entraînent dans des représentations auxquelles on va s'attacher, qui vont donner lieu à des discours, qui vont donner lieu à des disputes et qui vont donner lieu à de l'insatisfaction. Voilà. Oui, je vous en prie.
Question probablement bête.
Elles sont toujours très intéressantes.
Je pense par exemple à certains groupements de personnes qui travaillent beaucoup sur le symbolisme de façon philosophique pour trouver de meilleures idées et surtout aussi pour travailler eux-mêmes leur intériorité. Donc dans ce cas-là, quand ils travaillent à fond comme ça, philosophiquement sur le symbolisme, c'est non seulement... ça va encore au-delà de ce dont on a besoin déjà du travail mental que l'on effectue à tout va au quotidien. On s'en crée encore pour essayer, disent-ils, de développer une intériorité et de grandir. Donc en fait, ça va complètement à contre-sens de ce que dit le bouddhisme.
C'est sûr que cette démarche n'a rien à voir avec le bouddhisme.
C'est une fabrication énorme de l'ego à travers une philosophie
Alors peut-être pas forcément quelque chose d'énorme au niveau de l'ego, puisque le principe du symbole, c'est plutôt qu'il est trans-individuel.
Oui.
Ce qui parle justement à quelque chose qui est plus profond que la réflexion individuelle.
Oui.
Tout le monde... normalement, le symbole, c'est ce qui permet de transmettre une idée sans qu'on ait besoin de la verbaliser. C'est ça l'idée justement d'un symbole comme l'épée par exemple et la balance pour symboliser la justice.
Oui.
Tout le monde voit, comprend ce que ça veut dire même s'il n'est pas apte à le verbaliser. Donc je ne pense pas que ça soit quelque chose de pire,
oui.
Mais ce n'est pas en tout cas du tout en rapport avec la démarche que propose le bouddhisme.
Oui.
Ça c'est clair. Il y a, moi je n'arrête pas de le dire et j'en suis de plus en plus convaincu, il y a une critique très forte du langage et du concept dans le bouddhisme. Avec attention peut-être cette idée qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut aller au-delà et pas rester en deçà. C'est toujours cette idée qu'il ne s'agit pas de devenir une bête. Il y a notre cerveau produit du concept, produit du langage. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que ce langage et ce concept qui se produit quand les conditions sont réunies ne permet pas de rendre compte de la réalité. Et que si on veut connaître la réalité, il faut l'expérimenter à côté ou au-delà du langage et des concepts. Mais pas penser que le langage et les concepts vont permettre d'accéder à la réalité. De même que l'enseignement du Bouddha utilise le langage et les concepts, mais comme on doit l'utiliser cet enseignement comme un radeau, qui est fait pour traverser, pour atteindre la réalité, mais pas pour en faire un objet de débat intellectuel, pas pour se garder ça sur le dos, s'accrocher à lui, etc. Donc c'est toujours de l'ordre de l'outil qui doit amener à l'expérience directe de la réalité. Et ça, c'est toujours l'expression qui est employée dans les textes anciens. Le dharma, en tant qu'enseignement, mène à la réalité, conduit à la réalité, mais ne dit pas la réalité. C'est pas ce qui est dit dans l'enseignement, ce n'est pas ce qu'il faut expérimenter. C'est ce qui permet d'expérimenter la réalité. C'est ce qui permet, justement, de se détacher d'un certain nombre de choses. Et c'est ce détachement qui va permettre l'expérience. Mais, comme nous sommes des êtres de langage, que nous sommes empêtrés dans ces conditionnements liés aux mots, le Bouddha a besoin aussi d'utiliser du langage et du mot pour nous en faire prendre conscience. Ça, plus je n'en démords pas, si j'ose dire. Est-ce que ça vous parle, si j'ose dire ? Est-ce que vous voyez ?
Mais si le langage n'existait pas, on aurait la même condition que les animaux.
Oui, ce qui n'est pas forcément la condition idéale pour devenir Bouddha. C'est bien pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut aller au-delà. Il faut, dans le bouddhisme, on ne vous demande pas de vous débarrasser de votre moi, de vous débarrasser du langage. On vous demande de prendre conscience que ce n'est qu'une construction, que ce n'est qu'un phénomène conditionné, et que ce n'est pas la totalité de la réalité, et qu'il y a autre chose. Il ne s'agit pas de revenir à un état animal, en admettant que les animaux... Alors, du point de vue scientifique occidental, les animaux n'ont pas de langage. Pour le Bouddha, on pourrait dire qu'il y a un langage, il y a du concept, chez les animaux. Il y a du vitara, du vitaka, vichara chez les animaux. C'est pas. Le bouddhisme n'a pas du tout la même vision de la distinction entre humains et animaux qui correspondrait à celle qu'on a en Occident avec les études qui sont faites sur la possibilité d'avoir un langage articulé parce qu'on a un pharynx que n'ont pas les animaux, etc. C'est, on n'est pas du tout dans la même distinction, la même distanciation. Idem pour la distinction entre un homme et un dieu, un homme et un fantôme, un homme et un dieu jaloux, un homme et un être des enfers. Donc ce qui importe, c'est que pour le bouddhisme, c'est que tous ces états d'existence-là ont cette capacité de parler et de penser, mais il n'y a que l'état d'existence humain qui est pas dans une extrémité, dans un extrême de la souffrance, de l'avidité, de l'aversion, du psychisme, du physique, et c'est parce qu'il est le moins de ces différents états d'existence dans les extrêmes qu'il peut le mieux s'engager dans la voie du milieu. Parce que quelqu'un qui est dans l'extrême de la souffrance comme l'être des enfers est trop dans la souffrance pour pouvoir découvrir la voie du milieu et l'emprunter. Un fantôme qui est trop dans l'avidité, lui aussi, ne peut pas s'engager dans la voie du juste milieu. Alors que l'état d'existence humain qui est un peu dans l'avidité, un peu dans l'aversion, un peu dans l'attachement au psychique, un peu dans l'attachement au physique, à ce juste un peu qu'il faut pour que cette prise de conscience qu'une voie du milieu est possible soit justement possible. Autre remarque, question, réflexion.
En fait, oui. pour ne pas rester en deçà, pour aller donc au-dessus de. En fait, c'est par l'observation de ce que fait l'esprit. Non, c'est par oui. l'observation par l'esprit de ce qui se passe, mais sans utiliser le concept et encore moins la parole.
C'est quand on voit comment apparaît le concept et la parole
D'accord.
qu'on comprend que ce n'est qu'un phénomène conditionné qui n'est pas de l'ordre de la réalité au sens où on croirait au départ.
Hein.
La thérapie. C'est de voir que ce qui se produit est produit.
Donc par la pratique.
Par l'observation, par la pratique de l'observation, mais y compris l'observation de sa propre parole, de sa propre pensée, de ses propres sentiments, etc. Donc voilà, c'est tout ça. Je repense à ce que disait Jeanne Chat. Vous êtes votre propre terrain d'observation, et si vous faites en sorte de ne plus avoir rien à observer, jamais vous ne développerez la sagesse. Parce que vous ne développerez pas la connaissance. Si vous supprimez les objets d'observation, vous ne comprendrez pas que c'est des objets qui ne dépendent pas de vous, mais qui se manifestent parce que les conditions sont réunies pour qu'ils apparaissent. Tant que vous pensez que vous pouvez les maîtriser, vous êtes dans l'erreur totale. Et or, si vous faites en sorte de ne pas avoir telle ou telle chose, c'est que vous pensez avoir une maîtrise. Donc vous êtes dans l'ego, à plein. Mais du coup, vous ne pouvez pas vous observer.
Donc il faut les avoir tout le temps.
C'est pas qu'il faut les avoir. Alors, il faut pas les entretenir non plus. Non. Il faut pas les développer. Il faut avoir justement, c'est toujours cette juste voie du milieu, ce fil du rasoir entre ne pas interdire, mais ne pas provoquer, mais simplement observer ce qui se produit. Observer ce qui se produit. Mais c'est ce qu'on va voir. On va voir tout de suite.
Par exemple, sur le silence et la parole, donc il ne faut pas observer que le silence, il faut observer le silence et la parole.
Donc, il faut être attentif au type de parole que l'on va prononcer et cultiver cette connaissance de sa propre parole en tant qu'elle manifeste de l'avidité ou de l'aversion, de façon à ne plus alimenter cette avidité et cette aversion qui vont provoquer ce type de parole. Et le jour où vous avez compris que c'est l'avidité et l'aversion qui provoquent ce type de parole, que vous ne cultivez plus cette avidité et cette aversion, ce type de parole ne se produit plus. On travaille dans le bouddhisme toujours sur les conditions, pas sur les phénomènes eux-mêmes. On travaille sur les conditions. C'est cette métaphore que j'aime beaucoup, cette image du fermier. Hein, ou de la poule. La poule couve ses œufs, mais elle ne peut pas faire que les œufs éclosent plus vite que le temps nécessaire pour qu'ils éclosent. Le fermier laboure, sème et arrose, mais il ne peut pas faire que les plantes poussent, mûrissent et fructifient plus vite que ce qui est nécessaire pour qu'ils le fassent. De même, le bhikkhu doit pratiquer la discipline, le développement de l'esprit, le développement de la sagesse, mais il ne peut pas faire que la libération vienne plus vite que ce qui sera nécessaire pour qu'elle apparaisse. Voilà. Donc on travaille sur les conditions. Les phénomènes, eux, ils se produisent quand les conditions sont réunies. Tant que vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour que les conditions soient réunies, pour obtenir le samadhi, pour obtenir, développer la prajna, pour développer chitta, l'esprit, eh bien, il ne se produira rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et que ça ne sert à rien de passer des heures sur un coussin si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour que les heures passées sur le coussin produisent l'effet escompté. Enfin, ça, c'est ce qu'on dit. Enfin, pas beaucoup de gens. Dans l'extrait tout à l'heure de l'Anguttara Nikaya, parmi les 10 sujets corrects de conversation, on avait donc la solitude et le dégagement des liens. Je voulais revenir un petit peu là-dessus, parce que le dégagement des liens va nous amener à la solitude, et la solitude, bah, c'est le deuxième thème que j'avais choisi d'aborder. Dans un autre texte de l'Anguttara Nikaya, le Bouddha déclare « Cet enseignement est pour celui qui vit solitaire, pas pour celui qui est empêtré dans les liens. » Voilà ce qui a été dit. Et en référence à quoi cela a-t-il été dit ? Il y a un cas où un bhikkhu, vivant dans la solitude, reçoit la visite d'autres bhikkhus, de bhikkhuni, d'upasaka ou d'upasika, de rois, de ministres royaux, de membres d'autres sectes et de leurs disciples. En gardant son esprit tourné vers la solitude, aspirant à la solitude, incliné vers la solitude, visant la solitude, savourant la renonciation, il s'entretient alors avec eux seulement autant qu'il est nécessaire pour qu'ils puissent prendre congé. Donc cet homme qui vit dans la solitude mais qui reçoit plein de visites n'est finalement pas très seul, au sens, encore une fois, extérieur, social. Donc ça veut dire que le mot solitude, là, hein, doit être compris différemment. Et il est présenté donc comme celui qui est dégagé des liens. Le texte, en fait, parle du dégagement des liens. Et c'est à l'occasion de ça qu'il parle de la solitude. Retenez ça, parce qu'on va voir. Donc il est dégagé des liens, mais il a plein de liens sociaux. Alors dégager des liens, c'est l'expression qu'on emploie, la sortie des liens, c'est l'expression qu'on emploie pour désigner ce qu'en français on appelle souvent l'ordination mineure. Hein, vous savez que pour devenir un bhikkhu, il y a deux ordinations, l'ordination mineure et l'ordination plénière. C'est les termes chrétiens qui ont été réemployés. Donc l'ordination mineure, c'est la pabaja, c'est la sortie des liens, et l'ordination majeure, c'est upasampada, la prise au complet des préceptes. Donc sortir des liens, c'est généralement compris comme sortir de la vie de maître de maison, de la vie de foyer, pour adopter la vie sans foyer. Donc il y a une idée assez, disons, matérielle. On sort des liens matériels, le fait d'être un chef de famille ou de lier avec avoir des liens familiaux, des liens sociaux, pour devenir un sans foyer qui est libre comme l'oiseau dans l'air. La vie confinée est pleine de poussière dans le monde par rapport à la vie en plein air qui est celui du bhikkhu. Donc il y a toute cette image déjà de la solitude comme ce qui est le résultat d'une coupure des liens. Coupure des liens dans lesquels vous êtes empêtré lorsque vous êtes dans la société. Mais là, en l'occurrence, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que le personnage, bien qu'il dise... On dise de lui qu'il vit dans la solitude, qu'il a l'esprit tourné vers la solitude, aspirant à la solitude, incliné vers la solitude, etc. Il reçoit du monde et il parle. Mais seulement autant qu'il est nécessaire pour qu'il puisse prendre congé. C'est-à-dire en ayant une parole qui soit utile agréables de façon à les laisser satisfaits, hein, qu'ils ne soient pas blessantes, etc. Donc ils pratiquent le noble silence. Et vous voyez tout de suite peut-être où je veux en venir, c'est qu'il y a une communauté complète dans le noble silence et dans la solitude idéale. Il y a des points, les deux sont indissociables l'un de l'autre. Mais ce qui apparaît tout de suite là-dedans, c'est que ça n'est pas une attitude, encore une fois, extérieure qui importe. C'est une attitude intérieure qui va donner la définition de qu'est-ce que c'est que la solitude idéale. Donc il y a plusieurs textes qui permettent de s'en rendre compte. Le premier auquel je pense s'intitule « Terra Namo Sutta ». Alors « Terra Namo », c'est « Terra », vous connaissez ce que c'est, hein? L'ancien, « Namo », ça vous dit quelque chose, hein? Le nom, oui, c'est ça, c'est « Nama », comme dans « Namarupa », hein? Donc c'est celui qu'on nomme l'ancien. Donc c'est un bhikkhu dont il est question, et ce bhikkhu était un solitaire, et il passait son temps à vanter la solitude. Donc il entrait dans le village en étant seul, il revenait, il était seul, il s'asseyait tout seul, il mangeait tout seul, il allait méditer tout seul, quand il faisait la méditation en marche, il méditait tout seul, toujours tout seul. Le texte nous dit que les autres trouvaient ça un peu étrange, c'est intéressant, et donc vont le trouver, lui dire « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et lui répond « Eh bien, je suis le champion de la solitude, moi j'ai décidé de pratiquer la solitude, donc je vais seul au village, je mange seul, je marche seul, je médite seul, etc. » Et bon, les bhikkhus disent « On va quand même en parler au Bouddha, parce que ça nous paraît vraiment une attitude un peu particulière. » Et le Bouddha convoque Terra Namo, se fait confirmer qu'il a bien cette façon de procéder dans cette optique-là, et lui répond « Oui, effectivement, il y a cette sorte de solitude, je ne le nie pas, mais je vais te dire la manière par laquelle la solitude est pleinement accomplie, et réellement accomplie, on peut dire. Ainsi, Théra, tout ce qui est ancien est abandonné, tout ce qui est à venir est rejeté, et le désir et la convoitise pour les modes présents de la personnalité sont gardés sous contrôle. C'est ainsi, Théra, que la solitude est accomplie dans tous ses détails. » Et il conclut avec une stance sous forme de vers. « Surmontant tout, connaissant tout, le sage, non souillé en aucune chose, totalement libéré, renonçant à tout, le désir anéanti, cet homme, je le déclare, est un vrai solitaire. » Donc, rien à voir avec la solitude, au sens d'être sans personne autour de soi. Alors pour bien comprendre, il y a un autre texte qui est plus développé, qui va permettre de, j'imagine, que vous compreniez mieux. C'est un autre sutta, qui s'appelle le Migajala Sutta, puisque c'est un, Bouddha s'adresse à un personnage qui s'appelle Migajala, et c'est un enseignement, encore une fois, sur le danger de ce des sens qui peuvent nous faire éprouver du plaisir. Il y a Migajala des formes. Alors là, le texte est sur les formes, bien sûr. Après, vous aurez sur les sons, sur les goûts, sur les odeurs, sur tout ce qu'on ressent par le toucher et les pensées. Parce qu'à chaque fois, on a les 6 formes qui sont citées. Donc là, je fais que la première. Il y a, Migajala, des formes connaissables par les yeux, désirables, plaisantes, agréables, délicieuses, liées au plaisir des sens et attirantes. Supposons qu'un bhikkhu y trouve son délice, le revendique et s'y attache. Alors le délice apparaît. Mais quand il y a délice, il y a jouissance. Et quand il y a jouissance, il y a attachement. Un bhikkhu qui est lié par l'entrave du désir, Migajala, est appelé celui qui demeure avec un second. Un bhikkhu qui vit ainsi, Migajala, même s'il demeure dans des lieux éloignés dans la forêt, où il y a peu de bruit, peu de son, déserté par la foule, et où on peut rester sans être dérangé par quiconque, des logements propices à la méditation solitaire, eh bien il est encore appelé celui qui demeure avec un second. Pourquoi cela? Parce que le désir est son compagnon et qu'il n'est pas abandonné par lui. Voilà pourquoi on l'appelle celui qui demeure avec un second. Mais un bhikkhu qui ne trouve aucun délice dans les plaisirs sensuels, qui ne les revendique pas, qui ne s'y attache pas, qui ne connaît pas la jouissance et donc pas davantage l'attachement, qui n'est pas lié par l'entrave du désir, et s'il demeure ainsi, Migajala, même dans un village, au milieu des bhikkhus, des bhikkhunis, des upasaka et des upasika, des rois, des ministres, des maîtres de maison et des maîtres et des disciples d'autres sectes, celui-là sera appelé un solitaire. Pourquoi cela ? Parce que le désir était son second et qu'il l'a abandonné. C'est pourquoi il est appelé le vrai solitaire. C'est intéressant. Donc là, l'idée d'être seul, c'est l'idée de ne pas être accompagné par le désir. Autre texte. J'ai pas pris de texte. Il y en a un autre. Alors, je vais vous le citer de mémoire. Enfin bon, il y a plusieurs petits textes, mais qui sont un peu de forme un peu difficile. Qui n'a rien devant et rien derrière, ni rien au centre qui soit à lui, qui ne possède rien et ne s'attache à rien, lui, je l'appelle un religieux. Ça, c'est une phrase du Dhammapada. Elle reprend l'expression qui avait été employée à propos du Théra, du bhikkhu qui s'appelle Théra. Je vous le reprends. Tout ce qui est ancien est abandonné, tout ce qui est à venir est rejeté, et le désir et la convoitise pour les modes présents de la personnalité sont bien gardés sous contrôle. Alors, il y avait un autre texte, me semble-t-il, où c'était bien mieux mis, et puis j'ai oublié de le reprendre. L'idée, en fait, c'est ce qui est en arrière, c'est ce qui relève du passé. Ce qui est en avant, c'est ce qui relève de l'avenir. Et donc, être seul, c'est être sans passé et sans avenir. On n'est pas attaché à l'image qu'on avait de soi et dont on voudrait qu'elle soit reproduite. On ne se propulse pas dans l'avenir en ayant une image de soi. Donc il y a cet autre texte que j'ai oublié, qui dit, comme le Dhammapada, qui dit on n'a rien devant, on n'a rien derrière, ou on n'a personne devant soi, on n'a personne derrière soi, donc on est tout seul, dans le présent. On est sans compagnon, dans le sens où on n'est pas attaché à une image de soi du passé, et on n'est pas attaché à la projection qu'on a de soi dans l'avenir. Donc on est tout seul. Donc c'est vraiment, cette idée de solitude est liée à l'absence de désir. Désir pour le passé, désir pour le futur, mais aussi désir présent. C'est ce qui est dit dans l'expression, on est sans désir et convoitise pour les modes présents de la personnalité. Ou, on ni rien, il n'a rien devant, il n'a rien derrière, ni rien au centre qui soit à lui. Il ne possède rien, il ne s'attache à rien. Il ne garde rien et il n'a aucune idée sur ce qu'il pourrait être aujourd'hui. Donc là aussi, d'une certaine manière, l'idée d'être seul, c'est l'idée d'être sans idée sur soi. Parce que cette idée qu'on a sur soi va provoquer le désir. Soit l'attachement, le désir attachement à la forme passée, soit le désir projection à la forme future, soit le désir d'être soi dans le présent. Encore une stance, alors ça vient du Suttanipata cette fois-ci, toujours le problème avec les stances poétiques, c'est il faut les interpréter, qui reprend cette idée de ce qui est devant, de ce qui est derrière, là, sous une autre forme, il dit « Qui ne va pas trop loin, ni ne traîne en arrière, qui a dépassé ce mental qui prolifère, papancha, le bavardage mental, ce bhikkhu abandonne à la fois ce côté et l'autre, comme un serpent rejette sa mue. » Encore une fois, quelque chose qui doit être abandonné, c'est l'image qu'on a de soi, aussi bien dans le passé que dans l'avenir, de ce côté-ci comme de l'autre. Et un autre texte du Suttanipata qui concerne Sariputta,
mais dans le présent aussi.
Dans le présent aussi. Sariputta, dont il est dit que, ayant dispersé les ténèbres de l'illusion, il trouva délicieux d'être seul. Alors, on pourrait interpréter ça comme il était seul et du fait d'être sans illusion, il apprécia le fait d'être seul. Mais je ne pense pas que ce soit dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'expression. Et là, il y a plusieurs textes où on peut faire cette confusion-là. J'en pense à un autre, là, qui est dans le Terigata. « Lorsqu'il n'y a personne à voir ni devant ni derrière, on est si bien quand on vit seul dans la forêt. » Ça pourrait être interprété de façon très physique. On voit personne devant, on voit personne derrière, qu'est-ce qu'on est bien tout seul dans la forêt. Mais si on le met en relation avec les autres textes, on n'a personne devant, on n'a personne derrière, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de soi à laquelle on est attaché, on n'a aucune idée de soi que l'on projette dans l'avenir. Et alors, à ce moment-là, on est bien seul dans la forêt. Et la forêt, il ne faut jamais oublier que c'est bien sûr le lieu où on est invité à aller méditer, mais c'est aussi le lieu des liens. C'est Vana, la forêt. C'est ce qui permet de faire un jeu de mots avec Nirvana. Je vous ai déjà parlé de ça pour ceux qui ont l'habitude de venir. Le Nirvana, dans la tradition bouddhique, est compris comme la sortie de la forêt. Comme le dénouement, ce qui retire les liens. Et donc on peut être seul dans la forêt ou on peut être sans lien dans la forêt comme on peut être seul dans la société. À mon avis, là, il y a toute une série de jeux de mots, en fait, de jeux sur l'image où celui qui est seul dans la forêt, c'est celui qui est sans idée de soi, y compris au milieu du samsara. Même dans le samsara, il est, lui, débarrassé de ses liens avec son passé, avec son avenir, avec ce qui aurait pu être son passé ou ce qui aurait pu être son avenir, s'il y pensait, s'il se créait une image à laquelle s'attacher ou une image qu'il allait projeter. Donc la solitude là, c'est pas du tout une solitude physique, c'est l'idée d'être détaché de toute idée de soi et garder ce noble silence, même qu'on en est en conversation avec quelqu'un. On est dans l'instant présent, on dit ce qui est nécessaire de dire, parce que justement on n'a pas cette nécessité d'avoir quelque chose à dire pour se poser, pour que les autres aient une image de soi, ou qu'on transmette aux autres l'image qu'on a de soi-même, etc. Donc je pense que là il y a une liaison vraiment à faire entre la solitude idéale et le noble silence, que ça n'est jamais compris comme quelque chose qui doit être mis en application de façon extérieure, mais vraiment comme une attitude intérieure, le fait d'être sans passé, sans avenir, dans l'instant, et seul ou silencieux, dans le sens où on n'exprime rien de cet ego qui est une projection de soi ou un attachement à soi. Il y a un autre texte un petit peu plus développé, qui reprend cette idée-là. Le texte peut s'intituler « L'amateur de solitude idéale ». Et le texte dit « Ne nous tournons pas vers le passé, n'aspirons pas au futur qui est encore à venir, ce qui est présent, qu'on le discerne avec la vision pénétrante, quand et comment il arrive. Aujourd'hui même, on doit s'y atteler. Demain, la mort peut venir. Qui sait ?» Excusez-moi, j'ai sauté. En fait, j'ai deux traductions. J'ai fait un mix entre les deux, mais du coup, j'ai sauté. Alors, ne remontons pas dans le passé, n'aspirons pas au futur à venir, car le passé n'est plus et le futur pas encore. J'ai oublié. Et ce qui est présent, qu'on le discerne avec la vision pénétrante, quand et comment il arrive. Sans se laisser emporter, ni en être troublé, et y travailler, quoi que l'on trouve. Aujourd'hui même, on doit s'y atteler. Demain, la mort peut venir. Qui sait? Il ne peut y avoir de compromis aucun avec la grande armée de Mara, la mort, de celui qui se comporte ainsi avec énergie, sans se relâcher de jour ni de nuit. Le saint, c'est-à-dire le Bouddha, apaisé, déclare « Voilà l'amateur idéal de solitude ». Donc l'amateur idéal de solitude, c'est celui qui ne se tourne pas vers le passé, c'est celui qui ne se tourne pas vers l'avenir et qui est plongé dans l'observation du présent avec la vision pénétrante, quoi qu'il se produise, et qui n'attend pas demain pour y travailler. Voilà. Sans se laisser emporter ni être troublé par ce qu'il découvre dans le présent. Voilà. Donc ça, c'est l'amateur de solitude, au sens strict. Voilà, j'avais trouvé un commentaire qui disait, un auteur qui disait effectivement, il y a une comparaison, le devant et le derrière du physique correspondent au passé ou au futur, et donc la solitude physique est l'image en fait de la solitude mentale. Et ce sont deux modes de distraction qui doivent être abandonnés. On doit abandonner la distraction physique comme la distraction mentale. Cependant, se libérer de ces deux types d'éléments distrayants ne constitue pas en soi l'aise parfaite qu'est la solitude idéale. Il y a également un troisième élément de distraction à éliminer. On doit être sans souci, sans préoccupation, que la solitude recherchée soit physique ou mentale. C'est ainsi que n'importe quel attachement profond à ses possessions, qu'elles soient matérielles ou mentales, est le troisième élément de distraction. On doit être sans préoccupation, sans inquiétude. Et ce manque d'inquiétude, cette absence d'inquiétude, va s'exprimer dans le noble silence. Et c'est comme ça que je boucle la boucle. Donc ne vous taisez pas, ne restez pas seul, sinon les deux refuges que sont le Dhamma et le Sangha n'auraient strictement aucun sens. Quand vous prenez refuge dans le Dhamma, vous reprenez refuge au sens le plus ordinaire du terme, dans l'enseignement dit par le Bouddha et transmis par les bhikkhus, donc qui utilisent la parole et le langage. Et lorsque vous prenez refuge dans le Sangha, c'est aussi la communauté des gens qui vous accompagnent. Donc si vous êtes tout seul, vous n'en profitez pas non plus. D'autant moins que c'est eux qui transmettent l'enseignement. Et comme le Bouddha a disparu, il ne vous reste plus qu'eux. Donc si vous êtes seul et que vous refusez de parler, à quoi ça sert de prendre refuge dans le Dharma et dans le Sangha?
Donc, toutes ces retraites où on commence le silence à midi et puis on sort du silence 10 jours après, c'est un peu exagéré, non?
Je pense que ça mériterait qu'on explique mieux quel est le but. Si c'est simplement se forcer à ne pas parler, c'est pas, ce me semble, ce que préconise le bouddhisme.
Ouais. Parce que moi, j'ai découvert ça noble silence avec les retraites de VK, là. Mais les autres, c'était silence total.
Oui.
Et ça continue.
Oui, c'est ce que je dis. La première chose, quand j'ai tapé noble silence sur Google, c'était clairement, la première page, donc les 10 premiers qui sont arrivés, c'était on ferme sa gueule pendant une semaine.
On est très fiers.
On est très fiers. Bah oui, mais c'est, voilà, vous vous comportez comme des animaux. Ouais. Réaction du Bouddha. Bon, quand j'ai vu ça, moi je me suis dit, il y a un petit problème quelque part. Donc ça mérite peut-être d'aller voir d'un peu plus près. Et je pense que, voilà, quand on sait quelle est l'origine du mot, qu'est-ce que c'est que le silence? C'est en fait exprimer une non-inquiétude. On comprend mieux ce que c'est.
Mais la faute aussi doit être aux enseignants, parce que c'est à eux aussi de nous amener sur le bon chemin de la réflexion et de l'utilisation de la parole dans ces circonstances.
Tout à fait, je suis d'accord.
Parce qu'on est très content maintenant de se taire un peu, parce qu'on a tellement des problèmes avec la parole, on est tellement envahi par la parole, que ce qu'on veut dire ou sans rien dire, c'est pas mal.
Oui, mais ça n'est pas, à mon avis, fructueux dans la démarche bouddhique, si ce silence n'est pas un entraînement. Si c'est juste une interdiction, ça n'a strictement aucun intérêt. Si c'est juste une abstention, ça n'a strictement aucun intérêt. Il faut que ce soit un entraînement. Un entraînement à observer, voilà, là j'aurais envie de parler, pourquoi? Et ça, il faut l'expliquer. Un temps de retraite, c'est un temps d'entraînement intensif. Hein? Là, vous avez trois quarts d'heure au début, trois quarts d'heure à la fin d'entraînement. C'est ce que vous êtes censé faire quand vous êtes assis sur le coussin. Ben voilà, si vous avez envie de bouger, vous êtes là pour observer cette envie de bouger. Si vous avez envie de vous lever pour aller faire autre chose, vous devez observer cette envie de partir. Si vous avez envie de dormir ou n'importe quoi, vous observez cette envie. C'est à ça que ça sert d'être sur le coussin. Et le temps d'une retraite, c'est un temps plus long, de plusieurs jours, qu'il est consacré qu'à cette observation permanente de ces intentions qui font le karma. C'est à ça que ça sert une retraite. Et à cultiver tous les bons états d'esprit qui permettent de développer la sagesse et de développer cette attention à nos intentions. Et si on vous dit simplement « taisez-vous » et qu'on ne vous explique pas à quoi ça sert à rien. Donc bien évidemment, je mets en cause les enseignants qui n'expliquent pas.
Parce qu'en fait, c'est la première fois que j'entends cette explication.
Mais c'est bien pour ça que j'ai voulu l'aborder. Ben oui. Parce que ça fait un petit moment que je pense que ça mériterait d'être... J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, du noble silence, c'est pas l'abstention de parole, mais j'avais jamais approfondi ça, etc. Mais c'est vrai que là, quand on voit les textes, quand je les rapproche les uns des autres, pour moi, c'est bon... Faudrait faire allusion à des tas d'autres textes qui font que... Il y a tout un réseau qui fait que je ne vois pas d'autres interprétations possibles que celles que je viens de vous donner. C'est la seule qui me semble cohérente par rapport à ce réseau de textes au sein du canon.
Mais sur le site de l'Évêque Clarama, quand même, on en dit quelques mots,
oui.
Pas de mémoire, sur le noble silence.
Oui, c'est
pendant le temps de retraite. On
c'est aussi que... parler du dharma ou garder le noble silence. C'est plutôt dans cette idée-là.
C'est un entraînement, effectivement, à ne pas parler à la théorie à travers, ce qu'on fait en général tous les jours.
Ah, oui.
Déjà, un bon entraînement de réfléchir un peu avant de parler.
Oui, c'est le conseil que donne le Bouddha à Raoula, hein, qui correspond à nos « tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler ». Sauf que là, c'est avec l'optique bien particulière, l'optique bouddhique. Et comme disait Alexandre, effectivement, il y a un Vivekarama, on en parle oui. Un petit peu.
C'est vrai qu'ailleurs, tout le monde veut se tait, on ne sait pas d'ailleurs quand on est nouveau, pourquoi tout le monde se tait comme ça, et que l'intervenant finit par dire aux autres, enfin à tout le monde, vous pouvez quand même vous sourire, parce que tout le monde tient une tête comme ça.
Et vous avez le droit aussi de poser des questions.
Ah oui, non.
Normalement, oui. Puisque, encore une fois, ne soyez pas comme des bêtes, profitez de ce moment-là avec un enseignant pour poser des questions.
Ouais. Alors quand les gens parlent, finalement, quand quelqu'un doit parler un peu, au lieu de parler normalement, il va chuchoter. Mmh. Donc dans le noble silence, on doit pouvoir parler normalement, puisque le but, ce n'est pas de les empêcher de rester conscients, de rester dans la pleine conscience. Le but, c'est de dire quelque chose qu'il faut dire pour, dans le dharma, dans la session de méditation, par exemple, et qui peut concerner tout le monde.
Oui. On peut, cela dit, dans le cadre d'une retraite, ça dépend le cadre qui est évoqué. Là, on est dans une session ordinaire, on n'est pas dans une session retraite. C'est vrai, dans une session de retraite, on est censé être ensemble, plus côte à côte qu'ensemble. On profite un peu de l'énergie, de le dire collective, mais on est quand même dans un travail approfondi, chacun vis-à-vis de soi. Donc on essaye quand même de ne pas trop déranger, de ne pas être trop occasion de distraction pour les autres. Après, ça dépend de l'enseignant qui dirige la retraite. Il peut prévoir à certains moments de la journée, ou une fois un jour sur deux, un moment qui sera plus à une parole comme celle qu'on a là aujourd'hui. Ou alors des entretiens individuels. Ça sera plus généralement d'ailleurs comme sous cette forme-là. Mais ça n'empêche pas, on peut à table demander à avoir le sel. Aussi. Hein, ça,
oui.
Moi qui m'occupais de la cuisine dans les retraites, si le sel est trop loin,
oui. mais
c'est aussi. Bon, oui. C'est pas du dharma, mais ça n'est pas anti-dharma non plus.
Hein. Il faut dans ce cas-là respecter le chuchotement pour demander le sel.
Ah, c'est pas la peine de le gueuler.
Non, mais je dirais que quand on est dans une.
Avec mesure, S'il n'y a pas besoin de parler fort, il n'est pas nécessaire de parler fort.
Mais je dirais que quand quelqu'un chuchote dans ce cas-là pour demander le sel, on est happé par ce chuchotement. On se dit pourquoi est-ce qu'il demande le sel de cette manière-là alors que tout le monde est en train de manger.
C'est que vous devez cultiver davantage la concentration. Non, il faut, comme toujours, il faut jamais tomber dans les extrêmes. Il faut jamais tomber dans les extrêmes. Jamais. Sinon, c'est pas la juste voie du milieu. Et voilà. Ne jamais tomber dans les extrêmes et se souvenir que la préconisation première du Bouddha, c'est observer, s'entraîner à observer pour comprendre le caractère conditionné. Si ça ne sert pas cet objectif-là, d'une certaine manière, c'est pas bouddhiste. C'est pas en rapport avec l'enseignement du Bouddha. Si ça ne sert pas précisément à observer le caractère conditionné des phénomènes, ça relève pas de l'enseignement du Bouddha. Alors c'est du rituel, c'est du fantasme, c'est de la convention, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas, ça concerne pas l'enseignement du Bouddha. Le critère, il y a des textes qui disent ça, comment reconnaître un enseignement du Bouddha. Parce que quand on est passionné, ça permet de mettre fin à la passion. Parce que quand on est attaché, ça permet de mettre fin à l'attachement. Parce que quand on est des opinions, ça permet de mettre fin aux opinions. Parce que quand on est insatisfait, ça permet de mettre fin à la satisfaction. Hein, puis etc. Il y a plusieurs autres. C'est ça le critère. C'est ça. Donc si ça entraîne des passions, si ça entraîne de la violence, si ça entraîne pas de l'attention, si ça crée de l'insatisfaction, c'est pas bon. C'est pas en accord avec le Dhamma Vinaya. Alors après, il faut voir si c'est dû à l'extérieur, à ce qui vous est imposé, ou si c'est dû à votre façon de le comprendre. Parce que vous pouvez avoir une façon erronée de comprendre les choses. Les conseils qui vous sont donnés. Mais ça peut être dû aussi parce au fait qu'on ne vous les a pas expliqués. Bon. Après, voilà, encore une fois, il faut voir le pour, le contre, machin, et tout. Soi et autrui. Tout ne vient pas des autres. Tout ne vient pas de soi. Il y en a peut-être un peu des deux. Et puis on reste dans la juste voie du milieu. Bien, nous allons profiter du balai de cette mouche. Pour retourner dans la pratique de l'assise.